C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Quand l'ascenseur du mensonge tombe en panne, la suite. Amis auditeurs et auditrices, nous avons vu lors de notre dernière rencontre comment les Anglo-Saxons avaient méthodiquement pillé tout le patrimoine allemand. À présent, se pose pour les Américains la question suivante: comment rebondir économiquement après-guerre tout en maintenant leur domination? Cette destruction programmée de tout ce qui n'avait pas été rasé par les bombardements entraîna en Allemagne la misère, la famine et une mortalité due au froid. Or, les États-Unis, qui allaient bénéficier des avancées technologiques de leur ennemi et n'auraient plus à souffrir de son avance scientifique puisqu'ils s'étaient appropriés ses savants, les États-Unis étaient à présent confrontés à un problème: reconvertir une économie de guerre orientée vers la production de masse en une économie de paix qui, chez eux, n'avait pas besoin de surproduire. Rappelons que dans les années 30 et durant 7 ans, la balance commerciale américaine avait été déficitaire. Pour éviter le chômage, la solution c'était le plan Marshall, c'est-à-dire la reconstruction avec du matériel américain des infrastructures et l'équipement en machines et biens de consommation des pays européens. L'aide procurée par les États-Unis était soit considérée comme des dons, soit remboursable en or ou en dollars, et les prêts étaient sous contrôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, deux organismes dans lesquels seule l'Amérique disposait d'un droit de veto. L'idée sous-jacente est aussi d'éviter que la pauvreté ne jette les Européens dans les bras des communistes. 16 milliards de dollars de l'époque, soit 180 milliards 2023, furent déversés sur 16 pays sous trois conditions. La France devait ouvrir ses colonies au marché américain, virer les communistes de son gouvernement et importer un maximum de films américains. Sur 13 films projetés en salle, 9 devaient provenir des États-Unis afin d'acculturer le public français au way of life américain, le résultat éloquent de cet accord signé par Léon Blum étant la conversion de bon nombre d'artistes frappés ainsi de chômage aux thèses communistes, Montand, Signoret, Gérard Philippe, Claude Autant-Lara en furent. Afin de mettre en œuvre le plan Marshall dans notre pays, l'Amérique fit appel à des compétences largement compromises pendant l'occupation. Jacques Lemaigre Dubreuil, président des Huiles Le Sieur, administrateur de la banque Worms et de la Royal Dutch, collaborateur très actif avec l'Allemagne, s'associera avec deux inspecteurs des finances pour permettre aux Américains de pénétrer des grandes entreprises françaises par l'entremise de sociétés espagnoles prenant des participations au nom de clients anonymes. Nos sauveurs d'outre-Atlantique ont pensé à tout, y compris à interdire aux États bénéficiant de leur aide de transporter des produits américains afin de garder la suprématie maritime. L'ECA, European Cooperation Administration, exerce un contrôle poussé sur les économies bénéficiaires du plan. Tout est surveillé, rentrées fiscales comme dépenses sociales, nombre de chasseurs et de pensionnés. Des experts américains font irruption dans les entreprises françaises dont les dirigeants partent faire des stages aux États-Unis. La France doit importer un contingent fixe de produits américains, les exempter de droits de douane, tandis que les produits français susceptibles de gêner sont, eux, taxés à leur arrivée en Amérique. On procède à un remembrement rural afin de faciliter la vente des tracteurs américains. La haute fonction publique française signe tout ce qu'on lui demande de signer. Il faut dire que les Anglais ont dû eux aussi passer sous les fourches caudines de Washington, puisque dès 1941, ils ont avalisé un contrôle américain sur leurs exportations, n'étant désormais plus autorisés à vendre à l'extérieur des produits similaires aux produits américains.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Les Allemands sont donc vaincus. Dresde, traitée avec 1400 bombes incendiaires, pleure ses 35 000 morts civils et réfugiés, sacrifiés pour impressionner les soviétiques avant de leur abandonner les ruines fumantes de la ville musée de l'art baroque. La capitulation allemande allait faire naître dans l'esprit de Churchill le plan Unthinkable, impensable en français, qui consistait à lancer 47 divisions anglo-américaines sur les troupes soviétiques afin de libérer Allemagne et Pologne en s'appuyant au passage sur des débris de la Wehrmacht et sur certains militaires polonais profondément anti-soviétiques. Manquaient, hélas, les Cosaques blancs que Churchill avait livrés aux soviétiques peu de temps auparavant. Si l'offensive éclair n'était pas couronnée de succès, il était froidement envisagé une guerre totale. À la réflexion toutefois, le succès de l'opération était loin d'être garanti sur facture et pouvait conduire à une occupation russe de la Norvège, de la Grèce et de la Turquie, voire à une alliance des Russes et des Japonais. Les Soviétiques avaient la supériorité dans pas mal de domaines. La marine des Anglo-Américains ne servirait de rien et la bombe atomique n'existait pas encore. Alan Brooke, maréchal des armées britanniques, fit part à Churchill de ses doutes. Et le vieux lion, persuadé que Staline allait envahir toute l'Europe quand les Américains retireraient leurs troupes, ordonna la préparation d'un plan de défense des îles britanniques, sans savoir que l'URSS exsangue allait réduire ses troupes de 11 à 3 millions d'hommes. Ce projet délirant de Churchill en rappelle un autre encore moins connu du grand public. Quelques mois après le début de la guerre de 39-45, Anglais et Français envisageaient froidement d'attaquer l'URSS afin de priver l'Allemagne de ressources naturelles soviétiques. Pour ce faire, un plan, appelé le projet Pike, planifiait d'utiliser les bombardiers basés en Irak et en Syrie pour détruire les champs pétrolifères de Bakou, avec l'arrière-pensée de priver l'agriculture soviétique de carburant et par voie de conséquence d'entraîner une famine générale amenant l'écroulement du régime et donc de faire coup double. La déroute des Anglais et des Français en 1940 mit fin au plan Pike. Revenons à la fin du conflit mondial. Le temps de balancer sur des civils japonais quelques milliers de bombes incendiaires ravageant métropoles comme petites villes et causant des centaines de milliers de morts, la guerre du Pacifique était elle aussi gagnée. Il fallait toutefois poser une cerise sur le gâteau. Pour faire comprendre à Moscou qui était le patron, une bombe à l'uranium puis une autre au plutonium crucifiait les habitants d'Hiroshima et Nagasaki. Pour Hiroshima, on avait ardemment travaillé à un problème complexe sous les directives d'Oppenheimer. Faire exploser à 600 mètres du sol ce qui était techniquement compliqué mais occasionnerait un maximum de victimes, le but recherché. On y était parvenu. Cela n'avait pas empêché Truman de proclamer sans honte « Le monde se souviendra que la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, une base militaire. » On avait sélectionné des villes non ravagées par les bombes incendiaires pour bien montrer les dégâts occasionnés sur des cités jusque-là intactes, préférant cibler Nagasaki, où se trouvait pourtant un camp de prisonniers, plutôt que Kyoto, ville historique, où le secrétaire américain à la guerre, Henry Stimson, avait passé sa lune de miel. La vie comme la mort tiennent à si peu de choses. Les travailleurs forcés coréens dans les usines d'armement japonaises, qui représentèrent 10% des victimes, en savent quelque chose, eux qui sont morts deux fois, nucléarisés puis totalement oubliés. Deux bombes risquant de ne point suffire, en guise de précaution, parce que, voyez-vous, on ne sait jamais, une troisième bombe, affectueusement surnommée Demon Core, cœur de démon, était dans les tuyaux pour un largage après le 17 ou 18 août, à la première météo correcte, et ce n'est pas parce que les Japonais capitulent le 15 août qu'on ne va pas poursuivre les recherches, ce qui entraînera la mort de deux chercheurs faisant joujou avec le cœur du plutonium. Pas question de divulguer les effets réels de l'arme atomique. Et tandis qu'on interdisait aux savants japonais de faire des recherches sur les blessés survivants à cet apocalypse, dissimulant au monde sur ordre américain l'horreur des radiations, on laissait se répandre la rumeur d'une horrible maladie contagieuse ayant frappé le Japon, si bien que les rescapés du feu nucléaire étaient traités comme des pestiférés par leurs corréligionnaires. L'ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, chargée d'étudier les effets sur la santé de l'exposition aux radiations des survivants de la bombe A et de leurs enfants, ne fut créée que 2 ans plus tard. Entre les largages de Little Boy et de Fat Man, on finalisait le futur procès de Nuremberg qui jugerait les vaincus. Sans mentionner les responsabilités soviétiques dans le massacre des 4404 officiers polonais d'active et de réserve à Katyn, ni les exécutions sur ordre du NKVD de milliers de prisonniers de guerre à Kharkov et Mendenoï, ni les viols massifs de 2 millions de femmes allemandes par les Russes, ni les viols des Italiennes par les soldats marocains, ceux des Françaises par les GI, et bien sûr, sans aborder la Java mortifère des bombes atomiques. On éluda au maximum le fait qu'en 1941, les participations américaines dans l'économie allemande s'élevaient à 475 millions de dollars. Quant aux avoirs juifs détenus par Barclays, Morgan et Chase que les banques en question avaient oublié de restituer, il fallut attendre le 25 mars 1997 et la commission Matteoli pour que l'on arrive à des transactions pour des fonds de réparation bien en deçà des montants détournés. Tandis qu'on convoquait la fine fleur nazie au tribunal de l'histoire, la guerre, qui pour les populations semblait terminée, ne faisait que se poursuivre avec un changement d'adversaire. Il fallait à présent s'armer face à une Union soviétique conquérante. Tous les leviers allaient être utilisés. Il y eut l'opération secrète Paperclip, permettant de mettre la main sur 88 scientifiques allemands de premier plan. Certains allaient œuvrer à la mise au point des programmes Mercury, Gemini et Apollo, mais il y avait aussi ceux qui maîtrisaient les gaz neurotoxiques et qui avaient fait des recherches sur la peste bubonique, des savoirs qu'il ne fallait pas laisser perdre. Et tandis que le bureau des enquêtes spéciales du département de la justice s'efforçait de traquer les nazis, à son insu, les savants, dont certains avaient utilisé la main-d'œuvre des forçats de Buchenwald, se voyaient blanchis et bien payés pour leur contribution à la machine de guerre américaine. Les Anglais étant ruinés, seuls les Américains pouvaient acheter à bon prix les compétences allemandes. Entre 5000 et 10 000 nazis avaient été exfiltrés vers les États-Unis, à commencer par le bras droit d'Eichmann, Otto von Bolschwing. Quant à Eichmann lui-même, les Américains n'avaient pas communiqué d'informations au Mossad pour protéger leurs recrues nazies passées au service du réseau Gehlen d'Allemagne fédérale. Recrues telles Hans Globke, devenu conseiller à la sécurité nationale auprès de Konrad Adenauer, après de bons et loyaux services au bureau nazi des affaires juives, aux côtés d'Eichmann, justement. Certains médecins de la mort avaient repris du service en exerçant à nouveau leur art médical, désormais inoffensif, dans leur patrie, paraît-il dénazifié, avec le soutien actif des autorités. On manquait de praticiens, et cela présentait les meilleures références. Bien entendu, là aussi, la vérité sortit du puits bien plus tard. Mais certains faits sont bien moins connus du grand public américanophile. Un certain Seiichi Morimura, décédé à 90 ans, avait écrit un livre sur l'unité 731, une branche secrète de l'armée impériale japonaise, qui s'était livrée en 1938 sur la population chinoise, mais aussi sur des Russes, des Coréens et des ressortissants de 5 autres nationalités, à des expériences n'ayant rien à envier aux médecins nazis. Fruit de l'interview de dizaines de vétérans ayant torturé sadiquement leurs prisonniers sous la haute direction de Shiro Ishii, sous couvert de prévention des épidémies et de purification de l'eau, le pavé lancé par Morimura éclaboussait d'honorables praticiens qui s'étaient appliqués à inoculer typhus, typhoïde, choléra, anthrax et peste afin de progresser dans l'étude et la conception d'armes biologiques, quitte à pratiquer des vivisections sur des cobayes humains encore vivants, cobayes surnommés marutas ou bûches de bois. Les tortionnaires en blouse blanche non seulement ne répondirent pas de leurs crimes abominables devant des tribunaux, mais bien au contraire se virent offrir des millions de yens et l'immunité contre divulgation de leurs trouvailles réemployées lors de la guerre de Corée par l'armée américaine. Plus fort encore, non seulement les États-Unis nièrent jusqu'à ce que les dossiers soient déclassifiés, mais ils prétendurent que c'était le gouvernement japonais qui faisait obstruction à la vérité. Les Mengele aux yeux bridés se retrouvèrent propulsés pour certains à des postes clés, comme chef du comité olympique japonais ou président de l'association médicale japonaise, voire gouverneur de Tokyo. Il restait au gouvernement américain à sauver la face en établissant 50 ans plus tard une liste interdisant à 16 Japonais convaincus de crimes de guerre d'accéder au territoire des États-Unis, sans préciser que 4 ou 5 étaient entre-temps décédés. Joseph Mengele, lui, réfugié sous un nom d'emprunt près de Sao Paulo, se noya sur une plage brésilienne en 1979, pestant contre le Brésil qu'il avait accueilli, où il était contraint de supporter le voisinage outrecuidant d'Indiens et de Noirs, une promiscuité insupportable pour un nazi de sa qualité. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, Joseph Mengele a rendu l'âme. Mais les milieux d'affaires complices sont, eux, bien vivants. Nous le constaterons lors de notre prochaine rencontre.
Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes quand je le dis avec ma blouse. J'en ai en soie, j'en ai en laine. J'ai toute une collection de blouses. Je les porte toute la semaine. Et je les porterai toujours. La médecine vivra tant que vivra ma blouse. Ma blouse, ça veut dire que je m'aime. Même si t'as mal à en crever, tu pleures, je la porte quand même. C'est l'infirmière que je veux garder. J'y mets mes mains, j'y mets mon peigne, et tout ça, ça rentre dans ma blouse. Je la porte d'autant que tu saignes, et je la porterai toujours. Elle vient de là, elle vient de ma blouse. Les mots ne sont jamais les mêmes quand je les dis avec ma blouse.